5. On va donc commencer rapidement cette avant-dernière table ronde des Imaginars, enfin en ce qui me concerne. C'est pas moi qui fais la dernière. Je vous conseille d'aller voir celle de Stéphanie Nico, c'est toujours rigolo de clore les Imaginales avec elle. Nous, en attendant, nous allons parler d'un sujet qui montre bien que ces Imaginales sont à la fois de la fantaisie, de l'imaginaire, mais aussi un regard sur le monde qui nous entoure. Magie d'autrefois, imaginaire d'aujourd'hui. Des échos du paganisme ancien. Voilà le titre complet. Donc avec nous, Crystal Camprubi, qui est à la fois illustratrice, auteure, qui fait des choses en 3D magnifiques, qui fait des figurines, des statues, des costumes, elle est couturière, elle est plein de choses, Crystal. Nous avons Vanessa Terral, qui écrit des nouvelles, qui écrit des romans, qui est pour la première fois invitée officiellement du festival. Et nous avons Cécile Guillot, qui est sur le stand des éditions du Chat Noir, et qui va pouvoir, elle, très clairement nous expliquer ce qu'est le paganisme et de quoi il est question. Alors, dans un premier temps, justement, est-ce qu'on pourrait... Alors, on avait Fabien Clavel qui devait être avec nous, mais malheureusement, il a été empêché. Donc, moi, ce que je me suis posé comme question en regardant ce sujet, c'est, à l'heure de la technologie triomphante, est-ce qu'il reste autour de nous et tous les jours une place pour le mystère au quotidien ? Est-ce que pour vous, c'est une façon... la façon dont vous voyez le monde et la façon dont vous voyez votre quotidien?
Moi, j'allais dire que les deux ne sont pas antinomiques, bien au contraire. Je crois que c'est aussi parce qu'on est entouré d'un monde informatique, d'un monde quelque part de contrôle, où l'on voit que quelque part les fantasmes un peu effrayants de Big Brother commencent à se mettre un peu en place, que l'humain aussi a besoin de recentrer et de retrouver sa place dans ce monde, en tant aussi qu'être en rapport avec la Terre, en rapport avec les saisons, etc. Donc je ne suis pas étonnée, quelque part, que dans ce monde très technologisé, il y ait un retour au paganisme très clair.
D'accord. Cécile, pardon, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est, à l'heure actuelle, le paganisme? Donc ce qu'il a été et ce qu'il est à l'heure actuelle.
Donc c'est un retour, finalement, aux croyances qui étaient avant le christianisme. Donc moi je connais surtout la Wicca, qui est un des courants, voilà, une des branches du paganisme, et qui en fait est apparue dans les années 60 avec Gardner, et qui est en fait, lui l'a présenté comme, il avait rencontré une sorcière qui lui a dévoilé tous ses secrets, qu'elle tenait en fait de sa propre mère et grand-mère, voilà, une tradition qui passait de femme en femme à travers les générations. Bon, on sait en fait que Gardner était anthropologue, donc il s'est surtout appuyé sur les travaux de Mircea Eliade et de Margaret Murray, qui étaient justement sur des croyances autour de la sorcellerie et du lien à la nature, mais qui auraient survécu un peu en cachette, on va dire, même durant donc, la christianisation et plus tard jusqu'à nos jours.
Est-ce qu'on peut dire, quand on parle du paganisme, que c'est quelque chose qui est plus prisé par les anglophones que par les francophones, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui... Enfin, moi, je sais que j'ai des amis sur des forums américains et qui se réclament de la Wicca et du paganisme sans aucune honte, enfin, sans se cacher, en étant très clair sur une espèce d'œcuménisme, en le mettant à égalité avec la chrétienté, avec le judaïsme, avec l'islam, enfin avec une façon de pratiquer ça comme une religion. Est-ce que ça vous semble possible en France ou moins?
Je veux bien répondre. En fait, c'est vrai qu'aux États-Unis, la Wicca est maintenant reconnue comme une vraie religion. En France, bon, c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent adeptes de ce courant. Donc il y a la Ligue Wiccan Éclectique qui s'est montée, qui est une communauté plus d'internautes, mais qui comprend un millier de membres. Bon, c'est sur Internet, mais il y a aussi des rencontres qui se créent justement pour que les gens puissent se regrouper et parler de leurs croyances.
Crystal, est-ce que c'est cet esprit celte ou cet esprit pagan, il vous semble plus vivant, vous?
Oui, alors je voulais justement prendre la parole pour compléter. Tu me rappelais ton prénom, Cécile? Cécile, ce que disait Cécile, puisqu'apparemment elle a une expérience, j'ai l'impression, plus profonde de la Vika. En ce qui me concerne, je suis plus proche, on va dire, des traditions néo-celtiques, néo-druidiques, qui sont finalement, qui vont bien de pair. Hein, je veux dire, il y a quand même des ponts, des dialogues. D'accord pour dire qu'effectivement, les anglo-saxons ont une tendance à plus facilement afficher aussi une appartenance à la Vika ou au néopaganisme. D'une manière générale, c'est quelque chose qui est aussi très vivace en Irlande, en Angleterre, en dépit du fait que le pays est très chrétien, hein, je veux dire. Mais j'ai l'impression que tout ça, c'est aussi culturel, parce que si vous regardez bien, aux États-Unis, il y a même un ensemble, là je vais choquer des oreilles, mais il y a même beaucoup de sectes, c'est-à-dire que je crois qu'il y a une ouverture sur, une tolérance sur le fait d'avoir des religions qui sont minoritaires, qu'il n'y a pas forcément en France. Et donc en France, on a tendance à vite faire des amalgames. Donc à partir du moment où il y a des envies ou des velléités de retourner à des religions naturelles, elles sont regardées d'un œil un petit peu méfiant par la population et par les autorités. Maintenant, bien heureusement, je pense qu'il y a aussi des cultes avec des vrais, une vraie spiritualité qui est en ce moment en renaissance et qui est saine. Alors, pour justement compléter la chose, moi je dirais que en parallèle de la Vika, c'est aussi intéressant de voir effectivement la survivance donc, de l'obode en Irlande et de toutes les branches qu'elle a pu faire naître en France.
Qu'est-ce que c'est ?
Quelque part, c'était justement des mouvements néo-druidiques qui se réclamaient de la tradition des druides anciens. Alors, sachant que c'est très délicat parce que le druide avait une position très spécifique dans la société. Ça, je pense que Vanessa pourra en parler aussi bien. Mais disons que le druide était vraiment un intercesseur entre, on va dire, les dieux, entre le divin, le sacré et le roi. Il n'avait pas qu'une position de sacerdoce, il avait aussi une position de chef guerrier. Finalement, il intervenait à plein de plans de la société. Donc aujourd'hui, c'est vrai que on ne peut plus imaginer un druide qui soit dans cette position. Donc il faut se poser la question de qu'est-ce que le druide aujourd'hui ? Et qu'est-ce que, quelque part, quel lien il peut y avoir entre le néo-druidisme et le druidisme ancien ? Quelle est la légitimité par rapport à la culture ? Enfin, ça soulève un certain nombre de questions. Je crois que justement le débat va pouvoir porter là-dessus.
Comment ma question est un peu une question de novice complète. Comment est-ce qu'on introduit dans un quotidien qui est quand même très loin de ça, même pour un chrétien. On avait cette discussion hier sur le fait que on aurait peut-être tendance à dire à quelqu'un qui parle de la Wicca, alors, le dernier sort que t'as acheté, comment ça s'est passé ? Et je disais à mon interlocuteur, je dis, mais quand tu rencontres un chrétien, tu lui dis pas, mais alors, la dernière prière que t'as fait à l'église, ça a eu des résultats ou pas ? Et je pense que, est-ce qu'on a ce rapport un peu méprisant à quelque chose qui, parce que c'est un mal connu ou parce que ça semble faire référence à des choses anciennes ? La religion chrétienne fait référence à des choses aussi anciennes que la Wicca.
Alors, d'abord, excusez-moi, je la vois un peu enrouée.
Quatre jours de dédicace.
Déjà, il y a le fait que, lorsqu'on parle de paganisme, on parle de foi, à ne pas confondre avec la pratique magique. Beaucoup de gens font l'amalgame. Ce n'est pas les personnes qui vont prier à l'église ne vont pas forcément prier les saints pour retrouver leurs clés. Il y a vraiment une différence aussi dans le paganisme à ce niveau-là. Donc, c'était quelque chose que je voulais préciser, parce que quand tu disais quel est le dernier sort que tu as lancé, il y a des gens qui ne font pas de sort du tout. Enfin, je connais des païens en France.
Oui, des paganes, donc, ce qu'on appelle des païens en vrai français.
Oui, voilà, qui se contentent d'honorer la nature, c'est-à-dire à un moment donné où ils se sont inspirés par une situation, par un arbre qui se présente. Ils vont remercier d'avoir vécu cet instant. Et ça se passe, en fait, énormément dans la gratitude. Mmh. Après, il y a effectivement un côté un peu méprisant en France. Déjà parce que beaucoup de gens pensent que les païens... Donc, ceux que moi, je nomme païens...
C'est-à-dire que c'est difficile d'utiliser le mot païen parce que, à cause de la connotation...
Je vais peut-être expliquer ce que j'entends par païen.
Oui, qui n'est pas...
Alors, en fait, païen a la même origine que le mot paysan. Et pour moi, un païen, c'est quelqu'un qui a une foi qui se rapporte à la terre, de même que le paysan se rapporte à la terre. Et c'est une personne qui va respecter les rythmes de la nature, qui va respecter la nature elle-même, Alors après, est-ce qu'il va voir en chaque être, en chaque animal, en des arbres ou autre, un esprit, quelque chose à vénérer ou pas? Là, c'est un autre débat. Pour moi, un païen, c'est quelqu'un qui se reconnaît dans la gratitude et le fait d'honorer et de respecter les rythmes naturels. Donc en fait, c'est très très large. Ça se limite pas uniquement aux Celtes, à ceux qui ont des religions nordiques, qui ont énormément survécu en Islande. Il y a d'ailleurs des prêtres tout à fait officiels et un grand prêtre en Islande.
C'est le pays où ils ne détruisent pas certains rochers parce qu'ils les pensent habités par des fées.
Oui, l'Islande est un pays en cela très particulier, qu'effectivement il y a une tradition vivace autour de la féerie, autour du surnaturel en général, mais qui est expliquée par beaucoup de choses, y compris des scientifiques se posent la question de savoir si le fait qu'il y ait la tectonique des plaques avec finalement une perturbation géotellurique ne peut pas permettre quelque part qu'on soit parfois sur des fréquences différentes. Donc c'est vraiment intéressant parce que là la recherche en fait se penche dessus, se penche sur le mystère en fait, que le mystère des fées, du petit peuple, etc. Mais avec des outils qui sont des outils modernes, et il semblerait qu'il y ait des réponses qui soient apportées là-bas, qui pourront peut-être dans les années à venir éclairer beaucoup de nos questions. Mais oui, tout à fait, c'est là où il bouge les pierres, voilà.
On continue sur l'histoire. Pardon.
Non, mais pas de souci. Oui, donc en fait, il y a ce mépris en France, déjà du fait qu'on a eu la Révolution, on a rejeté tout ce qui était église, spiritualité. À un moment donné, on a quelque temps refusé le droit de vote aux femmes en disant que comme elles étaient sous la coupe des curés, du coup, elles voteraient ce que leur disait le curé et qu'elles n'avaient pas de pensée propre, en fait. Après, il y a eu tout ce qui était secte satanique, qu'on a confondu avec la Wicca, parce que, si ma mémoire est bonne, peut-être que Cécile pourra apporter des précisions. Il me semble que le premier groupuscule qui se disait Wicca était en fait satanique, en France en tout cas.
En effet, enfin, je ne sais pas si c'était le premier, mais en tout cas, il y a effectivement eu une secte qui utilise le terme Wicca dans son nom, en fait. Donc, du coup, il y a eu tout un amalgame et on a considéré que tous les Wiccans étaient en fait des satanistes.
Alors que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça peut avoir absolument rien à voir. Déjà, normalement, un païen ne croit pas forcément en Satan. Enfin, pour lui, il n'y a pas... C'est pas aussi simple que bien, mal, blanc, noir. Et après, on est aussi dans une société de progrès où on va se dire que si jamais on fait revivre des choses du passé, on va chercher dans le passé pour réactualiser, en fait, on est des arriérés qui n'acceptons pas, justement, Internet, tout ça, alors que la communauté païenne est très, très active sur Internet, entre autres aussi parce qu'elle peut se cacher par des pseudos et qu'elle a énormément peur de la réaction de leurs proches. Ils ont peur de des réactions des proches au travail, des amis, de la famille. D'ailleurs, il existe une petite chaîne sur Dailymotion qui s'appelle Païen tout simplement, et qui fait des petites vidéos. À chaque fois, c'est une question avec 5-6 intervenants. Chacun parle une minute sur un thème. Ça s'appelle « Papa, maman, je suis païen, secours, n'ayez pas peur ». Et ça permet d'avoir différents points de vue, dont des personnes qui ne se disent pas païennes, mais qui se reconnaissent dans une spiritualité de la nature et proche des cycles naturels.
On peut faire son coming out de païen, quoi.
Tout à fait.
Okay. C'est bon
à savoir. Et c'est plus ou moins bien accueilli, d'ailleurs. Heureusement, je connais plus de gens qui ont été bien accueillis que de gens qui l'ont été mal. Mais je connais, je pense à un ami en particulier, qui l'a révélé à sa famille, croyante dans une des religions majoritaires, et qui pense que ce pauvre garçon est sataniste, alors qu'en fait, pas du tout, il ne croit pas en ça. Enfin, donc ça peut être dangereux, ça peut être mal pris par l'entourage.
Je plus sois, c'est parce que, encore une fois, c'est mal compris, mal interprété, mal connu, et qu'on met vraiment des images d'Épinal dessus. Mais pour répondre à ce que tu dis, oui, enfin... C'est pas fait exprès.
Voilà, ça y est, fumble.
Pas fait exprès. Je connais également un cas d'une femme dont le mari était aussi d'une religion majoritaire et qui l'ont traînée en procès de sorcellerie au XXIe siècle.
Ne sont pas les plus arriérés qui ont croit.
Ça fait réfléchir.
À notre époque, encore faire un procès de sorcellerie, c'est quand même avoir une vision très arriérée de ce que peut être la différence de l'autre.
Oui, alors bon, là on rentre dans des questions qui sont des questions vraiment déontologiques, des questions de tolérance, etc. Mais là, pour le coup, c'est en dehors de d'autres religions. Il y a des religions qui vont prôner la tolérance et des êtres qui sont intolérants dans ces religions-là. Donc voilà, c'est vraiment un problème humain, là.
Et alors, parce que je pense qu'on a tous un petit questionnement un peu pragmatique sur ce sujet. Peut-être que vous pourrez nous renseigner ou pas. Peut-être que, comme l'a dit Vanessa, on peut être païen et pas du tout pratiquer la magie. Mais voilà, un petit peu de curiosité malsaine n'a jamais fait de mal à personne.
Non, on ne fait pas des partouzes autour des dolmens.
Ah, alors, je vais vous laisser parce que ça devient pas très intéressant. Est-ce que vos approches, est-ce que d'abord vous-même, vous considérez comme des personnes qui pratiquent et ensuite, qui pratiquent la magie ou une certaine forme de paganisme ou de Wicca. Et est-ce que vous pensez que les approches de la magie sont aussi une façon de proposer des choses aussi fortes que ce qui pouvait terroriser nos ancêtres? C'est-à-dire que je veux dire que le magicien, le chaman, le druide, dans une société plus ancienne, avait un pouvoir fort parce qu'il y avait des choses qu'on ne connaissait pas. Est-ce que maintenant, l'approche est différente? Est-ce que le fait de parler d'une magie de la nature, d'une magie Wicca, est-ce que c'est plus simple, c'est moins terrorisant, parce qu'on peut expliquer beaucoup plus de choses?
Alors, la question me perturbe.
C'est fait pour ça.
Non, mais disons que là, ce qui me perturbe à la base, c'est l'amalgame. C'est-à-dire que je pense... effectivement,
moi, je joue la candide,
c'est délicat parce que effectivement,
plein de choses.
Paganisme ne veut pas forcément dire magie. C'est ça. Il faut bien être d'accord au départ. Après, on parle justement de groupuscules éclatés. Comme tout à l'heure, on parlait de dérives, par exemple, dans de cas de sectes sataniques chez les Wiccans, etc. On pourrait tout à fait dire aussi que dans les néo-druidismes, il y avait une récupération de l'extrême droite. Et pour moi, c'est... Bon, malheureusement, on en souffre, parce que l'idée n'est pas là. L'idée... Moi, je me rapproche de Vanessa Terral sur le fond, c'est-à-dire que pour moi, effectivement, le païen, c'est souvent mal compris, parce que les gens entendent « est païen celui qui est anti-chrétien ». Pourquoi ? Parce que dans l'histoire, il est vrai qu'il y avait une opposition... voilà, on sait très bien que même à l'époque où les chrétiens étaient mis dans les arènes, voilà, on a essayé de prendre les paysans, mais c'est justement parce qu'il y a cette étymologie. C'est le paysan qu'on christianisait. Et donc, c'est le païen, finalement. Donc, il est resté cette idée de l'opposition, alors que finalement, on n'est pas sur les mêmes plans. C'est tout simplement ça. C'est une spiritualité naturelle qui s'ancre dans le territoire, je suis tout à fait d'accord, elle s'ancre dans le pagus. Donc, pour faire simple, il y a une forme de chamanisme, oui, mais chamanisme dans le sens de déférence à la nature, voilà. Ce chamanisme ne s'exerce pas de la même manière. Effectivement, si vous allez voir un chaman sibérien, il a un terroir, son pagus, on va dire, est différent de celui qui se trouve, enfin, de l'Indien, de la mer Indien, on va dire, qui se retrouve dans le désert de Nouveau-Mexique ou de l'Arizona, est très différent aussi de celui qui va ritualiser dans une forêt sur un mont Vosgien. Vous comprenez? Donc ça ne peut pas se pratiquer de la même manière.
Alors ma question va être peut-être une question un peu plus simple. Comment on fait pour être païen, pagane, quand on vit en ville? Voilà, tout simplement. On fait quoi? Avec quoi on se connecte? Avec quoi on est en relation? Comment on se ressource? Voilà. Des questions pragmatiques, une fois de plus. Hein.
Après, même si on est en ville, enfin, la nature est toujours présente. On ne peut pas totalement l'éradiquer de toute façon. Donc, il y aura toujours des arbres, des fleurs, l'air qu'on respire, le cycle des saisons. Quand on est en ville, on voit quand même la neige tomber, les arbres qui deviennent roux en automne, enfin, ce genre de choses. Donc,
je pose des questions, mais mes questions de façon un peu candide. Je pense que quand on est dans quelque chose et qu'on le connaît bien, on est persuadé que c'est une quasi-évidence pour ceux... Et là, franchement, ni pour moi, ni pour plein de gens ici, je suis sûre, ça n'est une évidence. Donc c'est bien de rappeler qu'effectivement, même en ville, on est en connexion, on peut entrer en connexion avec la nature en permanence. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Enfin, je pense que quand on vit au cinquième étage d'un immeuble, il y a des moments où on voit juste du béton tous les jours et où on ne voit plus que l'herbe pousse à travers le béton.
Alors, au cinquième étage d'un immeuble, on voit le ciel.
Mais quand on ne sait pas ce que c'est que le paganisme, on ne sait pas que le ciel est en relation avec ça.
Les petits newbies dans le paganisme, en général, ils commencent, la base, c'est les cycles de la lune. Tout le monde voit la lune.
D'accord.
Il y a la pleine lune, la nouvelle lune.
Prenez des notes.
On appelle ça les esbas, alors que ce qu'on appelle les sabbats, c'est les 8 fêtes qui correspondent aux délimitations des saisons tout au long de l'année. Justement, la croyance populaire croit que les sabbats, c'est les esbats, après c'est des petits détails. Et donc il y a ces esbats qui se fêtent à la pleine lune, où généralement on rend hommage au fait de vivre. La lune est très belle, elle a toujours inspiré les poètes, elle a inspiré les amoureux. elle aspire tous ceux en fait qui sont ouverts à sa beauté et à la magie qu'elle apporte. Mais qu'on y croit ou pas, ou la main, enfin, c'est pas une question pratique.
Oui, mais j'entends bien que quand vous dites la magie à ce moment-là, c'est pas qu'elle produit des effets magiques comme en fantaisie, il n'y a pas de boules de feu qui viennent de la lune.
Plus de la lune,
franchement. Non, mais ce que je veux dire, c'est la magie comme au sens exceptionnel et inspirant.
Voilà. D'accord. Qui émeut en fait la personne, qui chamboule l'âme par la beauté qu'elle apporte. Donc ceux qui commencent, voilà, ils apprennent ces rythmes-là. Ils font pas mal dans la lithothérapie, c'est-à-dire les minéraux en lithothérapie ont des propriétés et ils vont acheter quelques minéraux qui vont leur parler, ils vont prendre soin, ils vont essayer de se connecter en fait, on va dire, à la terre et aux qualités de ces minéraux. Ils pratiquent aussi pas mal à l'encens, c'est des choses très faciles qu'on peut chacun faire dans son appartement. L'encens dans le paganisme, en tout cas dans le paganisme, on va dire, pratique et éclectique, a des propriétés. D'ailleurs, on utilise l'encens dans l'église. On utilise l'encens depuis l'Égypte ancienne.
C'est rigolo de savoir que l'église aussi utilise l'encens, voilà. sans jeter l'opprobre sur ceux qui le... Qui le...
Tu veux reprendre ou je finis ?
Oui, finis.
D'accord. Et même, justement, tu parlais du cinquième étage. Il faut savoir que, je crois que c'est dans le Feng Shui, où un immeuble est un corps humain. Et selon où on se place au niveau de l'immeuble, on se place différemment. Par exemple, ceux qui sont tout en bas d'un immeuble vont se prendre en fait toutes les saloperies des personnes au-dessus. Et énergétiquement, en fait, ça descend et ça stagne. Donc, ça veut dire qu'ils seront dans un environnement plus matériel, plus perturbé.
Et c'est pour ça que les appartements du rez-de-chaussée sont moins chers. En plus, en dehors du fait qu'on peut se faire cambrioler, énergétiquement, c'est moins sympa.
Et voilà, et en fait, quand on commence dans le paganisme, on peut commencer par plein de voies différentes. Souvent aussi, on commence par la méditation. Il y en a qui commencent par le bouddhisme et la contemplation, et qui ensuite suivent la contemplation en oubliant les principes du bouddhisme, et simplement se mettent, on va dire, accrochent l'instant présent. Souvent, ça se fait dans la nature. Il suffit parfois d'une simple plante devant nous, et de fixer son attention sur la plante, ou une flamme de bougie, aussi un exercice que font beaucoup de petits newbies. Ou de grands newbies, ou pas de newbies d'ailleurs. Et c'est très facile chez soi, en ville, dans son petit appartement de 5 mètres carrés, chambre de bonne à Paris, de commencer une petite pratique. Ou une grande pratique d'ailleurs, si on y met toute sa volonté et toute sa foi.
Et pour éliminer aussi des idées un peu condescendantes, le zen ne propose pas grand-chose de différent. Hein. La contemplation zen, c'est très différent dans la pratique et dans les buts. Mais il y a aussi cette idée d'être dans la contemplation, dans la méditation, et il n'y a pas de la part de l'Asie cette condescendance à l'égard d'une pratique qui finalement est très personnelle et ne nuit pas à l'entourage.
Oui, tout à fait, mais je dirais que là encore, on est aussi dans un débat polythéiste, monothéiste. C'est vrai qu'en Asie, il y a aussi beaucoup de cultes polythéistes, ou en tout cas, une tolérance, enfin, ça dépend aussi de... On pense à l'Inde, par exemple. L'Inde, on n'a pas vu dans l'histoire de l'Inde, bien qu'elle soit complexe, et que même, en fait, les gens de l'Inde ont tendance à aussi agrémenter leur histoire de mythologie sans trop faire la distinction. Mais on n'a pas vu les gens de l'Inde sortir de leurs frontières pour aller quelque part imposer leur religion ailleurs. C'est souvent justement des religions monothéistes qui ont pénétré l'Inde. Alors là, on est dans un cas, on est en train de s'éloigner du débat. Mais dans l'idée, c'est bien ça. C'est-à-dire que je crois qu'il faut ramener les choses vraiment au terroir. Et donc, bien sûr, il y a des choses en commun, bien sûr, sur la contemplation et tout. Mais la grosse différence, à mon avis, je ne dis pas que parce qu'on ne peut pas, encore une fois, englober toutes les religions asiatiques, elles ont leur particularité, etc. Mais pour prendre un exemple concret, il se trouve que dans le bosquet auquel j'appartiens, puisque justement je suis dans une pratique, pour répondre à la question tout à l'heure, dans le bosquet auquel j'appartiens, nous avons également... un chef d'un monastère bouddhiste qui retrouve effectivement énormément de choses en commun, à la fois dans les rites et à la fois dans la pratique. Mais la différence...
Je suis pas sûre d'avoir bien compris, Christelle. Un bosquet, c'est ça ?
Un bosquet. Alors, non, il y a l'ensemble des bosquets, des clairières, c'est le nom qu'on donne finalement au rassemblement autour du druidisme. Alors, c'est toujours un peu compliqué. Je vais essayer de rendre la chose simple, autant que faire se peut. Il faut voir effectivement que de toute façon là je parle par un petit bout de la lorgnette, ça reste subjectif puisque justement étant donné que ça n'est pas une religion officielle, il y a encore beaucoup de choses qui sont différentes et des pratiques qui sont différentes. Certaines certaines façons de ritualiser, donc certains bosquets, certains clairières, je reviendrai sur la définition derrière, sont vraiment dans une espèce de mimétisme, mais ça mimétisme plus dans les atours. Le rituel passe beaucoup par les atours, par une espèce d'essai de renouveler l'histoire. D'autres clairières ou d'autres bosquets vont être sur d'autres tentatives justement de réintégrer la société contemporaine en se disant on ne peut pas faire le mimétisme de l'histoire puisque aujourd'hui justement le druide n'a plus la même place. Donc on va prendre la quintessence finalement du paganisme, c'est-à-dire effectivement une ouverture au polythéisme, quoique il y a aussi des endroits où c'est plus chamanique, donc voilà, ça se discute. Mais surtout effectivement ce respect de la nature, ce retour aux sources et ce retour surtout au cycle. Ça c'est très important parce que quand on parlait du cinquième étage d'un immeuble en ville, évidemment le cycle il est le même. D'ailleurs c'est pour moi un non-sens de mettre justement les grandes vacances en plein été, parce que les grandes vacances elles devraient être en hiver. Clairement si les gens s'écoutent, en hiver on hiberne. Je veux dire, je sais pas comment vous sentez vous, mais moi en hiver moi j'ai pas la pêche. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu ça.
Sauf à Noël moi perso.
Non mais donc là c'est ça l'idée, c'est-à-dire que en fait quand on suit un petit peu le rituel druidique et les sabbats justement, ils sont de bon sens, c'est-à-dire qu'il y a le printemps, le réveil de la terre, donc ça va tomber évidemment avec les équinoxes, les solstices hein, qui sont compris dedans, et puis les fêtes majeures, donc on connaît tous plus ou moins parce que vous connaissez tous Halloween j'imagine, donc voilà, le débat d'Halloween c'est compliqué, mais c'est, ça vient effectivement de Samhain.
Oui, c'est pas la fête des bonbons, hein.
c'est pas la fête
Haribo Halloween, hein. C'est, normalement c'est autre chose.
Oui, c'est beaucoup plus complexe, mais justement quand on s'intéresse, on arrive à voir ce qui a été pris, enfin c'est une caricature. Mais bon, pour faire simple, le nouvel an des Celtes se trouvait effectivement à la période de Samhain. Donc ça correspond, on va dire, grosso modo, au 1er novembre. Mais je dis grosso modo parce que le calendrier druidique est d'une extrême complexité. Mon livre porte dessus, d'ailleurs, c'est pas pour faire de la pub.
On est aussi là pour...
Voilà.
On va parler pas un peu pouvoir vous expliquer en une heure. Hein. Moi, j'ai peur que d'abord, je n'ai pas tout retenir et puis je n'ai pas tout comprendre. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de vous proposer...
Voilà, c'est vrai qu'après, bon...
Une approche des œuvres qui parlent de ce sujet.
Voilà, donc effectivement, dans le livre que je propose, c'est une approche du calendrier druidique, mais de façon effectivement fantaisie, parce que je ne m'en cache pas, je veux dire, je fais une réécriture, il ne s'agit pas ici de faire un ouvrage historique. Par contre, bien évidemment, il se repose autant que faire se peut sur des éléments réels. Sachant qu'effectivement, en ce qui concerne le monde celte, c'est très complexe. Il y a beaucoup de chamaillerie, de spécialistes. Donc nous, au milieu de tout ça, on est quand même obligé de prendre des partis pris. On le fait aussi avec son cœur, avec ses tripes. Donc parfois, ça passe par la subjectivité. Mais pour en revenir à ça, il est vrai qu'effectivement, le nouvel an tombe à peu près dans cette période-là, pour faire simple. Que certains l'associent aux lunaisons, ce que je trouve aussi de bon sens, parce que le calendrier druidique est lunisolaire. Donc il tient compte autant de la lune que du soleil. Donc il est vrai qu'on a des fêtes solaires, et il y a aussi finalement des quartiers de lune qui correspondent aux fêtes et dans lesquels il est de bon sens de faire des rituels. Pour revenir à Samhain étant un moment de passage entre deux années, puisque c'était le moment de Nouvel An, c'est aussi une ouverture des portes, fermeture des portes d'une année, ouverture d'une autre. Ça veut dire qu'entre les deux, il y a un trou. Et ce trou, c'est quelque part le moment où on peut être en connexion. Alors justement, les anciens disaient avec les esprits, avec le petit peuple, avec les anciens. Les anciens, c'est tous ceux qui nous ont précédés. C'est la mémoire finalement qu'on retrouve effectivement dans les cultes d'Asie, la mémoire des ancêtres. Finalement, les Celtes l'avaient aussi. Alors les anciens reviennent à ce moment-là. On peut, dans ce petit trou entre les deux années, leur parler, leur dire qu'on les a aimés, leur donner, leur faire un témoignage, si vous voulez. Et ce témoignage-là, ça a donné quoi? Ça a donné pour Halloween, quand on prend la caricature, c'est le fantôme qui revient. Et le petit peuple, ça a vite donné aussi, dès lors que quelque part la christianisation s'en empare et qu'on a besoin de... oui, mais pas seulement aussi... désolée, parce que du coup, je rebondis dessus, mais c'est vrai que je vais laisser aussi un peu la parole aux autres, là, je tiens un crachoir. Mais il est vrai aussi que je pense que les chrétiens ont beaucoup pris les lieux d'origine celte, et parfois, il fallait composer avec. Mais comment faire pour une population qui, finalement, avait ses idoles, avait ses dieux, avait ses coutumes, ses habitudes? La meilleure façon de faire, c'était s'immiscer dedans. Donc on trouve effectivement des tas de passerelles. Je veux dire, par exemple, vous avez la chandeleur, bon, c'était finalement, c'est le soleil qui revient, donc c'est le disque solaire qui s'est, on retrouve finalement...
Même Noël.
Et même Noël, okay. Même Noël, bien entendu.
Justement, on en parlait hier avec Cécile, excusez-moi, de la figure de Brigitte. Brigitte est une déesse irlandaise qui a été récupérée par la christianisation comme une sainte Brigitte, qui a été récupérée par les esclaves africains et qui en ont fait une loi dans le vaudou, Mama Brigitte. C'est quand même une figure assez puissante dans ses archétypes pour appartenir à trois religions différentes et qui s'opposent et qui se combattent et qui se sont tapées dessus. C'est la force des archétypes et de ces figures est assez extraordinaire.
Cécile, est-ce qu'il y a moyen de faire une espèce d'encyclopédie de ces croyances, d'encyclopédie de ces pratiques différentes, ou est-ce que c'est trop compliqué, ou il vaut mieux se contenter d'une pratique qui est la sienne et qu'on connaît bien
Alors bien sûr, il y a des ouvrages qui essayent de compiler, notamment par exemple des ouvrages sur le calendrier païen, qui montrent bien que finalement chaque fête a existé un peu partout dans le monde, sous des noms différents, mais finalement avec des mêmes symboliques. Et c'est ces mêmes fêtes qui ensuite ont donné les fêtes chrétiennes, comme l'expliquait Cristal, parce que c'était plus facile de reprendre quelque chose qui existait pour essayer de convertir le peuple. Après, en tout cas dans la Wicca, je pense qu'un des éléments importants, c'est que justement c'est une religion sans dogme, une religion vivante qui évolue au fil du temps pour s'adapter aussi à la modernité, justement. Et donc c'est important finalement de prendre aussi les éléments qui nous parlent plus. C'est quelque chose de personnel finalement qui se construit de manière intérieure. Donc c'est vrai que ça serait dommage d'essayer de juste appliquer.
On doit gêner quelques esprits.
Qu'on verrait dans des livres, dans des encyclopédies.
Si je peux rebondir, d'ailleurs, la série de Cécile Guillot, Fille des Quatre, présente une jeune femme. Alors, il y a du fantastique dedans, mais l'héroïne, Maëlys, ils nous mettent à la porte, ils sont en train de ranger là. L'héroïne, Maëlys, en fait, vit les premiers pas d'une païenne. Quand je parlais d'encens, de pierres et ainsi de suite, c'est ce qu'elle fait. Et en fait, il y a quelque chose d'assez intéressant dans, on va dire, le paganisme éclectique, justement, que pratiquent beaucoup les petits nouveaux, c'est la méditation.
J'ai très, très envie d'être une petite nouvelle depuis que ça devient très, très intéressant.
Chouette. C'est la méditation guidée, où en fait, on va partir d'une histoire, par exemple, on va dire, là, tu te trouves dans une... Enfin, on s'imagine, on se visualise dans une clairière. Dans cette clairière, il y a un chemin. On va suivre le chemin, on va arriver à une forêt. Et selon comment est la clairière, selon comment est la forêt, si c'est méridionale, forêt du nord, et ainsi de suite, ça va signifier différentes choses. Et voilà. Et quand Cécile disait que l'avantage avec le paganisme qui s'adapte à chaque personne, la visualisation, la méditation guidée ou la visualisation, selon comment on la nomme, c'est exactement ça. On va partir d'un schéma, d'une petite histoire qui reste très vague sur les détails pour que les détails s'adaptent à la personne. Et quelque part, c'est ce que... En fait, ça, c'est mon interprétation personnelle. C'est pour parler à l'inconscient. En fait, on a toutes les réponses, on a énormément de réponses en nous, dans notre inconscient. On a notre instinct qui est très fort, mais notre intellect est là par-dessus et nous empêche d'y accéder parce qu'on nous a appris depuis tout petit que l'instinct, c'est quelque chose de pas fiable. Et qu'on arrive à toucher l'inconscient, soit par la méditation qui apaise les pensées, soit par la visualisation qui permet aux pensées, qui permet en fait aux élans de l'inconscient de monter vers la conscience, mais sous une forme protégée qui est donc le chemin, le fil de route de la visualisation. Également, on peut trouver que certaines formes du chamanisme le chamanisme peut être expliqué aussi ainsi. Et c'est comme ça qu'on va personnaliser et trouver les réponses qui nous conviennent et qui nous sont propres et qui nous sont totalement personnelles. Voilà aussi pourquoi certaines formes du paganisme, il est plus judicieux de parler de croyance et de foi que de parler de religion. La religion, c'est quelque chose d'agencé, c'est une clairière, c'est des bosquets, alors que énormément de païens, finalement, vont utiliser des méthodes et vont respecter les cycles de la nature, mais ne vont pas se retrouver dans quelque chose d'organisé. Ils vont vraiment faire ça à leur sauce, et vont exprimer leur propre, quand je parlais de gratitude, il y a énormément de personnes sont là-dedans, leur propre gratitude à la nature, leur propre gratitude au fait de vivre et à l'émerveillement du quotidien.
Donc païen, chacun fait comme il veut, ça me semble déjà une bonne idée. Ensuite, j'aimerais revenir un tout petit peu à une autre partie du terme qui est imaginaire d'aujourd'hui. Quand je vous entendais, Cristal, parler du fait d'ouvrir la porte aux esprits et de parler avec les anciens, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quelque chose, à un roman qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus lointain qu'on ne le croit du paganisme. C'est Dune, tout simplement. Les Bene Gesserit, les révérendes mères dans Dune sont clairement des femmes qui sont en relation avec leurs ancêtres dans leur tête, dans leur sang, dans leur psyché. Grâce à l'épice. Hein,
Une
petite aide extérieure ne fait pas de mal.
C'est pas si idiot, parce que dans le chamanisme, on utilise effectivement, par exemple, des plantes hallucinogènes, etc. C'est un petit coup de pouce, on va dire. Bon, j'ai pas essayé.
Et je tiens à préciser qu'en France, il y a des formations sérieuses sur le chamanisme qui n'utilisent pas les plantes, mais le tambour, qui fait entrer en fait le cerveau en onde
theta.
On joue du tambour. En fait, le rythme du tambour fait entrer le cerveau en onde theta, donc en transe, qui est le même état que lorsqu'on entre en méditation. C'est le petit rappel légal pour la France, en fait.
Oui, tout à fait. Et puis il y a tout ce qui est autour, par exemple, en fait, on a quand même beaucoup de rapports avec tout ce qui est énergétique. Hein. Donc, je veux dire, effectivement, par exemple, je pense à la Wen, qui est quelque part... La Wen, c'est quand on se trouve en groupe dans un rituel, c'est un moment où on va simplement... Enfin, je ne vais pas dire chanter tous ensemble, mais on va donner une voix, un son, juste un son qui est maintenu.
Qui ressemble au homme.
Qui peut ressembler au homme, si on veut. Bon, c'est pas.
Non, mais, dans l'esprit. Pour que les gens comprennent ce que.
J'essaye, oui. C'est bien.
J'essaye de faire des analogies.
De faire le lien aussi. Ouais. De faire le lien. Bon, alors c'est. Évidemment, il y a des rapports sans avoir. Voilà. Le home, c'est encore quelque chose de très spécial parce que c'est lié à un chakra particulier, etc., etc. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est plus d'harmoniser sa voix avec celle des autres. Ce qui est très intéressant parce que finalement, c'est. Une histoire d'égrégore. Quand on est dans un groupe, mais là, je parle de n'importe qui.
Alors, l'égrégore, moi, c'est un mot... Cristal, c'est un mot que moi, je connais, que je considère comme un mot pas très commun, pas très connu de tous.
Eh bien, je pense que vous êtes rendu compte de temps en temps. Je vais essayer de le prendre par ce biais-là. Et si je ne réussis pas, Vanessa pourra peut-être en dire plus, parce qu'on a déjà eu des discussions sur l'égrégore. Alors, voilà. Mais... disons que vous avez dû remarquer que vous n'êtes pas les mêmes quand vous êtes, je ne sais pas, avec vos enfants, avec votre mari, avec vos amis, nous sommes des êtres complexes. Et en fait, en fonction des êtres qui sont devant nous, on va montrer une facette. Quand vous avez un groupe au travail, par exemple, vous vous retrouvez avec des gens avec qui ça se passe bien ou avec qui ça se passe moins bien, et grosso modo, il y a une énergie groupe, une synergie de groupe. Vous changez un élément qui va être, je ne sais pas, celui qui parlait beaucoup, celui qui était très effacé, celui qui c'est ça... Un élément va partir, il va être licencié, il va trouver un autre travail. Une autre personne va le remplacer. L'énergie du groupe va être différente. Cette énergie de groupe s'appelle l'égrégore. Et ça intervient dès qu'il y a deux personnes, et ça peut aller autant qu'il y a de personnes. Si c'est une foule qui va écouter un stade de foot, il y a un égrégore de cette foule-là. Cette énergie de groupe...
Pas très positif, cet égrégore du supporter de foot.
Mais c'est vrai que par contre, il me semble... Enfin après, voilà... Cécile et Vanessa ont raison là-dessus. Enfin, c'est-à-dire que je plus sois. Je pense...
Ce qui est très informatique, finalement.
Je reste persuadée qu'effectivement, il y a un retour fragile du paganisme et qu'il faut absolument effectivement respecter cette polysémie ou cette différence qu'il y a entre les différents cultes. Je vois qu'en écoutant Vanessa, je vois qu'on n'a pas notre foi exactement de la même manière, mais ce n'est pas grave. C'est ce qui fait aussi sa richesse. Et de toute façon, il faut penser qu'à l'époque celtique, pourquoi les Celtes refusaient tant l'écrit ? C'était justement pour ne pas enfermer ni la religion, ni leur foi, ni les dires, ni les pratiques. Il ne fallait rien enfermer parce que tout pouvait évoluer dans le temps, évoluer en fonction de la personne. Il y avait une immense souplesse. Et je pense que ce serait trahir cet esprit-là qu'aujourd'hui, de remettre à nouveau des dogmes et des barrières et des frontières.
Est-ce que du coup, Internet n'est pas une façon de réintroduire cette grande souplesse? On sait tous que Wikipédia n'est pas forcément un élément très très fiable. Est-ce que le fait qu'il existe 12 pages de Pagan différentes, autant de pages Internet que de Bosquet ou que de Cléria, enfin, je veux dire, est-ce que la multiplicité des infos et du réseau et du net, ça ne permet pas à chacun d'être dans un écrit qui n'est pas tellement influencé par les autres ou qui garde sa spécificité. Enfin, moi, en vous écoutant, je pense que finalement, la technologie apporte cette liberté que l'écrit simple, à la façon de la religion du livre catholique, islamique, juive, avait peut-être limité.
Ça permet l'échange, finalement, autour de ces idées, de ces croyances. Mais en même temps, il y a des tas de personnes qui n'ont pas accès à Internet, qu'on pourrait qualifier de Wiccan ou de païen, mais qui vivent ça d'une manière personnelle, sans avoir besoin de mettre une étiquette dessus. Voilà.
Je suis absolument d'accord. Et je dirais que c'est même important justement de savoir... je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu au départ dans l'errance et qui n'ont pas envie d'être attachées à quoi que ce soit. Et c'est très bien comme ça. Et je veux dire, à partir du moment où, effectivement, il y a un moment où on peut tenter une énergie de groupe et qu'on se rend compte que ça colle, c'est bien. Mais il y a aussi plein de fois où ça peut ne pas coller parce que tout simplement ça ne correspond pas à la façon dont on vit les choses. Et dans ce cas-là, il ne faut pas se forcer du tout. On peut être effectivement dans une pratique solitaire et c'est très bien comme ça.
Une autre question, c'est... moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous n'allez pas chercher la magie ailleurs. Vous choisissez d'explorer des thèmes anciens, des thèmes presque historiques pour certains. Pourquoi pas l'espace? Pourquoi pas... qu'est-ce qu'il y a de plus fort dans les légendes et dans les mythes connus, enfin, dans les mythes terrestres? Qu'est-ce qui vous semble plus légitime que de rêver aux étoiles ou d'envisager une divinité lointaine? Qu'est-ce qui semble plus intéressant dans la proximité?
Mais c'est pas antinomique, hein?
Non, mais je... Non, mais je parle, on est aussi en train de parler d'écriture, d'imaginaire et de romans. Qu'est-ce qui vous tente pas dans l'idée de parler d'aller chercher la magie dans l'espace?
Alors en fait, j'ai fait une nouvelle de Space Opera. Une partie de la nouvelle se passe sur Terre, justement, avec une femme qui est accusée d'être sorcière. Et la nouvelle est vue du point de vue de son descendant, qui a des flashs dans ses rêves et qui petit à petit a des visions quand il est éveillé. Et ce jeune homme est réparateur sur un vaisseau spatial. Et la nouvelle, en fait, finalement, se base sur le chamanisme, c'est-à-dire j'ai pris ce qui est une pratique à l'origine de, on va dire, de toutes les... Enfin, de toutes... Je n'aime pas trop généraliser comme ça, mais c'est apparu, on peut dire, à peu près à l'époque des chasseurs-cueilleurs, en tout cas de façon scientifique. Et ça a pu inspirer énormément de pratiques de spiritualité et de religion. Et j'ai utilisé cette pratique, donc le chamanisme. Alors, le chamanisme vraiment pris au sens de le chaman et le médiateur entre les humains et les esprits. Parce que chacun voit le chaman peut-être comme le chaman sibérien ou le chaman avec la plume iroquoise, enfin, je ne sais pas trop quoi. Et finalement, comme c'est simplement faire la balance entre deux mondes, ça marche autant sur Terre qu'ailleurs, et avec une espèce, du coup je vais vous dire la fin de la nouvelle, hein, je suis désolée, mais avec une espèce que les gens pensaient être des animaux extraterrestres et pensaient n'avoir aucune conscience, ce réparateur qui est petit-fils, enfin arrière, petit-fils d'une chamane qu'on disait sorcière à l'époque, et plusieurs autres personnes partout dans l'univers vont s'éveiller au chamanisme et vont prendre conscience et vont pouvoir faire le pont entre des aliens qui juste n'avaient pas notre mode de communication et ne pouvaient pas communiquer avec nous quelque chose de compréhensible par l'humain et les humains. Et donc finalement, ce qui était là pour faire le pont entre des humains et des esprits correspond à faire le pont entre des humains et des aliens.
Donc on peut être paganiste et penser à l'espace et à la conquête de l'espace ou pas du tout? Le paganisme n'est pas conquérant.
Disons, enfin, oui.
C'est comme tout, quoi. Je veux dire, je vais être grossière, mais il y a des cons partout, quoi. Donc, je veux dire, les Romains.
Conquérant, c'est pas conquérant.
Ouais, mais ça dépend.
C'est un peu agressif, c'est un peu.
Conquérant, voilà. C'est, je veux dire, les Romains, lorsqu'ils conquérant. Oula, je vais pas réussir à.
Oui, c'est compliqué, ouais. Conquérir. Hein.
Voilà. Non, mais quand ils prenaient une ville. Ils faisaient ce qu'ils voulaient aux habitants, généralement ils pillaient, et après ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient dans les temples pour récupérer, pour honorer les dieux et les statues, et ils prenaient les statues et ils les ramenaient, je crois, à Rome. En tout cas, je sais qu'ils changeaient les statues de place en les couvrant de cadeaux, en les couvrant d'offrandes, et ils s'appropriaient ainsi les divinités. Donc oui, le paganisme peut être conquérant, tout comme il peut ne pas l'être. Mais là, ce n'est pas une question de paganisme, c'est une question de peuple et de schéma de société.
Une chose assez drôle aussi avec les Romains, c'est que quand... Donc, il y avait une certaine croyance, c'est rigolo, parce que souvent, le fait d'avoir une foi implique forcément que la foi de quelqu'un d'autre ne peut pas exister. Et là, en l'occurrence, les Romains, quand ils faisaient leurs conquêtes, essayaient d'en savoir par leurs émissaires, puisque vous savez que c'était des émissaires de proximité, hein, ils mettaient vraiment des centurions aux frontières et les centurions, d'ailleurs, dès lors qu'ils avaient pris un territoire, on leur donnait une possibilité d'avoir femmes et enfants et terres à cet endroit-là, de façon à, quelque part, intégrer progressivement ces terres à l'Empire de Rome. Ce qui est très intéressant, c'est que les Romains, donc justement, envoyaient des ambassades pour essayer, quelque part, d'avoir des informations sur le nom des divinités, des personnes qu'ils voulaient conquérir. C'était très important pour eux de pouvoir avoir le nom de ces divinités, parce qu'ils pensaient se les mettre dans la poche. Et donc le fait d'avoir leur nom, c'était aussi, ils pouvaient du coup ritualiser pour essayer de récupérer la grâce de ces divinités au détriment du peuple qu'ils allaient conquérir.
Est-ce que c'est un peu comme quand on a le nom de Rumpelstiltskin? Non, c'est un peu ça. Hein.
Moi, je pensais plutôt à Beetlejuice, en fait.
Ah, oui, mais il faut l'invoquer, ça se passe mal après.
Mais c'est ça, on a le nom, on le fait venir chez nous, quoi.
Bon, une question peut-être dans la salle, quelqu'un? Oui. Alors là, il y a des clés qu'on n'a pas tous, hein, mais... moi, j'étais sur un druide, grosso modo en blanc, mais là, non,
panoramique.
C'est pas panoramique, je suis déçue.
Non, pour faire simple, effectivement, on dit, pour éclairer un petit peu effectivement ce que nous dit cette dame, qui est très juste du reste, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à faire une symbologie autour dans le néo-druidisme qui essaye de se baser autant que faire se peut sur les connaissances actuelles qu'on a des anciens celtes. Qui dit effectivement... Alors, je ne sais plus le mot en gaulois, mais effectivement, c'est le même, pour dire le vert et le bleu. Or, c'est vrai que pendant des années, on a pratiqué...
Les Gaulois étaient daltoniens, super.
non, mais par contre, c'est intéressant, parce que là, pour le coup, sur la théorie de la couleur, je pourrais en dire pas mal. C'est vrai que la perception de la couleur est vraiment en rapport avec la langue. Je vous donne je fais une petite parenthèse, mais c'est pour vous expliquer, c'était une émission de la BBC. Qui a envoyé justement des équipes pour rechercher auprès des peuls en Afrique. Qui a fait un test très intéressant sur des couleurs en leur montrant justement, il y avait un test sur des bleus et des verts. Et ils ont constaté en fait que s'ils leur montraient 12 petits patchs, en fait 12 petits tesselles, dont 11 étaient bleus et un vert au milieu, un peul ne réussissait pas à retrouver le vert. C'est-à-dire, on lui demandait laquelle était différente et il ne trouve pas. Pourquoi ? Parce que dans leur vocabulaire, il n'y a pas de différence. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que, voilà, pour le coup, j'ai fait le test en voyant, voyant l'émission. Il montre donc un nouvel échantillonnage. Moi, j'en vois 12 identiques et on voit tous les peuls défiler et montrer le même tessel. Donc, notre langue conditionne, je pense, un peu comme les phonèmes. Un enfant a tous les phonèmes à sa disposition petit et puis petit à petit, bah finalement son bain culturel voilà, va restreindre sa capacité à prononcer certains phonèmes. Et de la même manière, disons qu'à la suite des recherches qu'on a faites sur la couleur et la perception de la couleur, il semblerait que l'esprit finisse par réduire le potentiel de visualisation des couleurs quand le vocabulaire ne permet pas de lui donner un mot différent. Raison pour laquelle il est très important, comme en ce qui concerne quand on est peintre, de réussir à nommer le plus de couleurs possible, ne pas faire de différence. Enfin, j'ai ma fille de 4 ans, je fais la différence entre l'ocre et le rouge, le rose et le magenta, parce qu'il est important pour moi quel est ce vocabulaire.
Christelle, vous êtes en train de nous dire que ça serait bien qu'on ait tous notre petit nuancier Pantone sur nous en permanence.
Oui, bon, on ne va pas exiger ça des gens qui ne sont pas dans la peinture. Mais pour revenir à cette question-là, grosso modo, c'est vrai que dans le néo-druidisme, l'idée était au départ, parce que notre connaissance est parcellaire, que, a priori, les lovates et le barde, qui sont finalement deux lignes différentes qui conduisent à être druide. Ça va être un peu compliqué si on rentre dans le détail, et je pense qu'on arrive enfin. Mais grosso modo, on va dire que celui qui va s'occuper du rituel, de la partie qui va être... je ne vais pas employer le mot magie, justement, parce que ça peut être mal interprété, mais qui va être en charge du rituel, on va dire, et de faire la profondeur, tout ce qui va être dans la verticalité, qui va être... un rapport entre le divin et le sacré et les gens qui sont en train de ritualiser, ça va être la fonction de l'ovat. Donc dans la tradition ancienne, on les appelait les vats. Donc le vat a donné l'ovat. Et puis le barde, qu'on connaît tous ici, parce que bon, ne serait-ce que parce qu'il a été popularisé au travers de BD, bon, c'est pas du tout ça aujourd'hui.
Et que parce qu'il est le titre de l'anthologie des...
Oui, oui, c'est pour ça que je suis très contente d'en avoir fait la couverture, parce que ça m'allait bien comme sujet. Mais le barde, en l'occurrence, est très très loin de l'image qu'on s'en fait, quoi. Et c'est vrai que le barde avait d'autres fonctions, mais c'était une fonction horizontale et une fonction de transmission. Et il est vrai qu'habituellement, on met les bardes en bleu et les ovates en vert. Étant donné que maintenant on découvre que c'est le même mot, moi je dirais que je ne peux pas parler pour tous, mais j'ai la sensation qu'après on adapte au fur et à mesure, et que l'idée n'est pas tant d'être aussi, bien sûr on recherche une fidélité, mais il y a aussi toute une part qu'on ne peut pas jeter au feu, c'est la partie symbolique, et quelque part je pense qu'on s'en fout finalement d'être en bleu ou en vert. Mais ce qui est important, c'est de se ressentir dans un certain rôle, et si le fait de porter une couleur peut y aider, pourquoi pas.
Bon, ben, je crois que vous avez tous compris, appris plein de choses, appris que vous ne saviez pas plein de choses. Je vais finir sur une note d'humour parce que c'est ma petite patte à moi, ma magie à moi, mais ça ne marche pas toujours. Oui, bon, je vais y aller. Et vous dire que donc, j'espère qu'après cette conférence, cette table ronde, vous savez que les bardes, c'est pas Assurance Touriste, et les druides, c'est pas Panoramix. Voilà, déjà, si on pouvait éclater cette image. Et moi, je vous invite à aller regarder très rapidement maintenant, parce qu'on est à la fin du festival, les livres des trois personnes qui sont présentes et qui vont pouvoir peut-être vous donner une porte d'entrée un peu plus lointaine que ce qu'on a fait aujourd'hui dans cet univers qui est à la fois ancien et en même temps très moderne, comme on a pu l'aborder. Merci, mesdames.
Merci.
Merci.